Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
Bienvenue à toutes et à tous. L'histoire de ma femme d'aujourd'hui est pleine de défis, de réussite, d'amour familial et de tendresse. Son témoignage démontre comment cette jeune femme issue de l'immigration, qui est née dans une tour HLM en France, a réussi à construire une carrière dans la politique et à défendre les sujets qui lui tiennent à cœur sans jamais oublier son pays d'origine, son Maroc natal.
Média 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Latefa Chey, bonjour, merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Latefa ?
Je vais très bien et je suis ravie d'être avec toi, chère Yasmine.
Ben, moi aussi. Alors, il y a une phrase qui vraiment capte l'attention sur ton profil Instagram. C'est juste derrière ton nom et ton prénom, c'est d'une tour HLM à femme politique. Qui es-tu, Latefa ?
Alors, je suis d'abord et avant tout l'héritière de mon père et de ma mère qui m'ont transmis une culture et une éducation que j'ai plaisir non seulement à mettre en évidence et à partager avec mon entourage et qui raconte beaucoup de choses et qui m'a effectivement permis, comme tu viens de le citer à l'instant, de passer d'une tour HLM au deuxième tour d'une élection nationale en 2017.
D'accord. En France ?
En France, absolument. Je suis également, donc j'ai été élue dans ma commune de naissance à Romans-sur-Isère de 2008 à 2020. Je suis également la dirigeante d'une société de conseil et l'auteur du livre « Sois une femme, ma fille », qui n'est autre que la traduction d'une phrase très puissante et qui sera très évocatrice et qui est « Kouni Mara Benti », une phrase de mon père dite à un moment un peu important de ma vie.
« Kouni Mara Benti », ça veut dire « sois forte et sois... » Et voilà, sois capable.
C'est ça, et ça veut même dire je sais que tu es capable.
Oui, absolument.
Ça va même au-delà de ça, ça veut dire j'ai confiance en ta capacité à faire des choses. Et effectivement, cette phrase-là, elle est une déclaration de confiance dans ma capacité personnelle à affronter des épreuves.
Donc, tes parents sont partis en France, tu n'étais pas encore née, c'est bien ça ?
C'est ça, tout à fait.
Et toi, tu es née donc en France ?
Je suis issue d'une fratrie de 8 enfants et je suis la première à être née en France.
D'accord.
Je suis la numéro 6. Donc, ma mère est arrivée dans les années 84, en 1984 pour être précise. Et je suis la première à être née en France et j'avais déjà 5 grands frères et sœurs qui étaient nés au Maroc, dans la région de Meknès.
OK.
Et mon père faisait les allers-retours depuis les années, on va dire, fin 69 jusqu'en 84. Et puis en 84, ils ont décidé de s'installer et d'élire domicile dans la commune de Romans-sur-Isère.
Et d'emmener toute la famille et de vous installer, comme tu le disais, dans une tour HLM. Pourquoi c'est important pour toi de préciser que d'une tour HLM à femme politique ? Parce qu'on dit que... Pourquoi ? Parce qu'il y a cette perception que ce n'est pas possible ?
Parce qu'il y a énormément de barrières et que très souvent, effectivement, socialement, il y a des catégories. On va ranger les gens par catégorie socio-professionnelle. Et c'est très souvent hermétique. Et les tours HLM, en tant que telles, c'est quand même des populations qui ont été regroupées. Ça a été des choix politiques qui ont été faits sur de nombreuses années et qui a concentré des populations avec des critères socio-économiques qui peuvent parfois être inquiétants. Et ces personnes-là, très souvent, elles vont reproduire, elles vont rester dans des conditions sociales parfois très précaires. Et a priori, quand on pense notamment à ces quartiers, ce qu'on appelle des banlieues, des personnes qui ont été mises au banc de la société, on ne pense pas forcément à des personnes qui marquent la vie politique locale. Et mon témoignage, il est celui-là, il est le témoignage d'une jeune fille qui est née dans un quartier populaire avec des critères économiques et sociaux réels, mais qui, grâce à une éducation, grâce à l'amour, grâce à la volonté, a pu faire un bout de chemin et marquer, pour le coup, ce qui est mon cas, emprunter la voie de la politique pour parler de mes propres préoccupations, des personnes qui me ressemblent, de mon envie et de mon ambition pour mon territoire. Et c'est la raison pour laquelle mon témoignage aussi marque un petit peu et fait écho à de nombreux autres parcours qu'on ne met pas forcément en valeur. Parce que quand on pense à un quartier populaire, on ne pense pas forcément uniquement, rarement malheureusement, à des choses positives. On va plutôt avoir... en tête les unes de médias mainstream qui vont parler des quartiers populaires avec un regard très négatif, très peu optimiste, alors qu'il se passe quand même des choses très belles parfois et que c'est important de le dire aussi.
Quartier populaire, maghrébine, issue d'immigration, toutes ces choses-là, j'imagine.
Absolument, et que je raconte sans langue de bois, précisément dans mon livre. Je l'explique, je suis jeune, je suis une femme, je suis issue d'immigration, de parents nés de l'autre côté de la Méditerranée, notamment au Maroc. On suppose de confession musulmane et qui fait de la politique. Et c'est a priori pas la place que je devrais occuper. Pourtant, je l'ai occupée et j'ai joué un rôle important en politique. Qui sert aujourd'hui de rôle, modèle aussi, je n'aime pas trop ce terme-là. Et pour cause, parce qu'on peut y mettre énormément de choses à l'intérieur. Et pourtant, depuis la sortie de mon livre, j'ai la chance et l'honneur de parcourir à la fois des lycées, des collèges, des collectivités territoriales qui m'invitent pour parler de ce parcours-là et montrer aussi que des choses très fortes peuvent se passer, parfois avec très peu de moyens. Mmh. Et c'est aussi important de porter ce discours-là, un discours profondément optimiste. Je ne dis pas que c'est simple, mais on peut quand même faire des choses.
Alors, tu disais que ton père t'a dit « Kounimara Abinti » à un moment très important. Est-ce que je peux être un peu plus curieuse ?
Tu peux l'être, je t'en prie. Même si j'invite les auditeurs effectivement à lire mon livre, il y a
information
dedans. Alors, la particularité de mon livre « Sois une femme, ma fille » d'une tour HLM au deuxième tour d'une élection nationale, c'est un récit autobiographique très intimiste parce que l'originalité première, c'est que je m'adresse à la droite de mon cœur, ma mère.
Absolument, c'est
et,
ça.
Voilà.
Et pourquoi et donc, ça, justement
précisément pour créer cette relation de confiance avec mon lecteur ou ma lectrice et l'emmener dans mon monde, mais l'emmener réellement dans mon monde. Et le monde qui est le mien, c'est celui effectivement de la politique, mais pas que. C'est celui du féminisme, c'est celui de la double culture, etc., du monde rural. Mais c'est aussi le rapport que j'ai à ma mère qui souffre d'une maladie neuro-évolutive et qui impacte non seulement sa vie de femme d'abord, et qui impacte aussi l'ensemble de sa famille dont je fais partie. Et c'était ma façon, et c'est ma façon à moi, de sensibiliser un public plus important sur ces questions-là, de maladies neuroévolutives, comment ça s'immisce dans la vie de tous les jours, comment ça s'installe dans le temps, quelles sont nos faiblesses, quelles sont nos forces aussi par rapport à ce type de maladies, dont on parle très peu, qui sont encore énormément tabous, et dont les pouvoirs publics ne s'imprègnent pas forcément.
Même en France ?
Ne se saisissent pas. Même en France. Alors, il y a des choses qui se mettent en place. Ma mère, ça fait plus d'une quinzaine d'années qu'elle est malade aujourd'hui, donc j'ai pu voir une évolution dans la prise en charge, mais on est encore bien en deçà de ce qui est nécessaire pour pouvoir vraiment permettre un accompagnement de qualité.
Alors, ce qui m'interpelle aussi, c'est que j'imagine qu'elle a eu cette maladie alors qu'elle était encore jeune, elle l'a eu assez tôt quand même.
Elle l'a eu, la maladie s'est déclarée tôt.
Oui.
Elle était encore dans la fleur de l'âge.
C'est ça.
Et justement, au moment où elle pouvait en profiter avec mon père, qui a eu une carrière longue et complète dans différents métiers, mais aussi dans les métiers du bâtiment. Il a commencé comme ouvrier, il a terminé comme chef de chantier. Et c'était le moment où vous allez pouvoir profiter, après avoir dignement élevé leurs enfants, avec des hauts, avec des bas, faire construire leur maison, offrir un avenir meilleur à leurs enfants et petits-enfants. Et c'est là où la maladie décide de s'inviter dans notre famille. Donc là, tous les projets qu'on peut imaginer à ce moment-là sont remis en question et deviennent même parfois impossibles.
Et justement, le diagnostic a été posé comment ? C'était quoi les premiers signes, les premiers symptômes ? Parce que justement, c'était encore une femme, comme tu le dis, à la fleur de l'âge, encore jeune. Donc on ne pense pas forcément à Alzheimer.
Non.
Mais voilà, ça s'est déclenché comment ?
Ça ne se déclenche pas du jour au lendemain. Quand on s'installe, c'est pernicieux. Comme tout le monde, on oublie ses clés, on oublie de fermer la porte, parfois on oublie le gaz. Mais s'installe de plus en plus. Il y a un changement de comportement, le regard aussi. C'est peut-être ce qui m'a le plus frappé dans mon rapport à cette maladie, c'est que cette maladie a changé le regard de ma mère. Et on l'entend, on le voit, il y a des comportements qui changent. Et c'est de plus en plus récurrent et on ne peut plus se cacher derrière. Ça arrive à tout le monde d'oublier ses clés. On voit que ça prend une place de plus importante dans le quotidien. On n'est pas rassuré quand on laisse la personne seule et ainsi de suite. Et c'est ce qui, à un moment donné, nous alerte. Et qu'on est obligé d'aller voir un praticien spécialisé pour savoir ce qu'il en est réellement. Et là, on, Même si on s'y attend et qu'on se dit c'est sans doute ça, le jour où le diagnostic tombe, ça fait mal à tout le monde.
Quoi. Absolument.
Et là, l'acceptation, elle est difficile parce qu'on passe par plusieurs étapes et on continue à passer par plusieurs étapes parce que c'est une maladie qui évolue et les conséquences sur la vie quotidienne évoluent avec cette maladie. Donc notre adaptation est mise à rude épreuve quasiment tout le temps depuis que la maladie a été diagnostiquée.
Et là, elle va comment ?
Puis elle se porte bien, femme de Léla, comme on dit. Elle se porte bien, on est avec elle, nous avons la chance de l'avoir avec nous. On a un accompagnement qui est renforcé, elle a la chance d'avoir mis au monde 8 enfants qui le lui rendent bien, un époux soucieux de l'état de santé de sa femme. Des petits-enfants aimants, c'est pas tous les jours facile, mais on a appris à vivre avec ce rapport à la maladie. Et comme je le dis dans mon livre, malgré la maladie, ma mère continue à nous élever. Et elle nous apprend énormément de choses. Elle nous apprend que la vie est précieuse, que c'est bien d'attendre de pouvoir faire les choses et de se projeter, mais que c'est surtout très important de vivre l'instant présent avec les gens qu'on aime. Et je pense que c'est ce qui m'a le plus frappée, ça a été ce que j'ai mis en évidence tout de suite dans mon livre, c'est que c'est finalement quand il se passe des choses qu'on se rend compte qu'on a énormément à raconter aux gens qu'on aime. Et le meilleur moment pour dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, c'est là, maintenant, tout de suite. Et c'est ce que nous apprend aussi les épreuves de la vie.
Alors, justement, quand on se retrouve dans ce genre de situation, quand on a déjà, on va dire, un projet professionnel qui prend beaucoup de place, s'ajoute à cela une situation familiale, est-ce que ça laisse un peu d'espace pour quelqu'un dans sa vie ?
Alors, c'est une vraie question. Hein. C'est marrant parce que c'est souvent la question qu'on pose. Parce que déjà, la politique prend énormément de temps.
C'est ça.
C'est extrêmement chronophage. Ça relève parfois du sacerdoce. Je l'ai déjà entendu et je souscris en partie à cette définition. Pas complètement parce qu'on y trouve aussi quelque chose. Sinon, on n'irait pas vers ce milieu-là. Mais effectivement, c'est très compliqué. Hein. Moi, je le dis, hein, je pense que c'est ce qui fait que mes lecteurs et mes lectrices reviennent vers moi après la lecture du livre et le conseil à d'autres, et que j'ai encore la chance de faire énormément de conférences, c'est qu'il y a une vraie sincérité dans ce que je partage. J'ai vraiment même pris la main de ma mère quand j'ai écrit mon livre pour être dans une sincérité d'échange sur ce qui se passe et comment tout ça impacte la vie d'une femme de mon âge, qui est née dans un quartier populaire, qui a des parents qui sont nés de l'autre côté de la Méditerranée, qui est musulmane et ainsi de suite, et qui a soif de justice, qui a envie de citoyenneté et de partage. Donc je le dis aussi avec mes mots, il y a des moments où j'ai flanché, le burn-out, j'en ai fait un. Ça a été extrêmement compliqué, c'était aussi ça ma volonté, c'était de montrer l'envers du décor, parce que très souvent on va assimiler des hommes et des femmes politiques derrière un pupitre, avec un discours fort et un sourire à toute épreuve, mais qu'est-ce qui se passe réellement derrière cet affichage, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se fait. Et c'était aussi mon ambition, c'était réellement partager ce côté-là qui est très peu raconté au final. Parce que les hommes et les femmes politiques veulent conserver une image d'eux très fort, etc. Mais on est des hommes et des femmes comme tout le monde, avec des hauts et des bas. Et je pense que c'est aussi important de pouvoir le dire parce que ça contribue, il me semble-t-il, à une meilleure compréhension de la citoyenneté, de la politique, pour pouvoir la partager réellement. Et donc, c'est pour répondre à ta question, non, c'est pas simple. Très clairement, c'est pas simple, mais on peut quand même le faire. Moi, j'ai du coup cette chance-là d'être à proximité immédiate de mon entourage et de ma famille. Alors, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant, c'est vrai, mais ça peut encore m'arriver, j'ai encore le temps pour ça, si je le souhaite. Mais c'est vrai que ça prend énormément de temps. Ça, c'est indéniable.
J'aime bien le « si je le souhaite ». Est-ce que tu le souhaites, justement ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a de la place où tu te dis « il n'y a pas de place pour ça, il n'y a pas de place pour une famille, pour des enfants ?» Et c'est un droit, c'est légitime. Mais bon, on pose la question parce qu'on est dans un contexte maghrébin et on sait comment... j'en parlais récemment avec une collègue amie qui me disait « On a encore aujourd'hui, au Maroc, cette vision de la femme célibataire, même si elle réussit professionnellement. » En fait, le tabou de la femme célibataire n'est pas encore dépassé. Celui de la femme divorcée, oui. De plus en plus. Elle m'a dit « Une femme célibataire, c'est plus compliqué. » Est-ce que c'est vrai, ça, la TFA ?
C'est vrai à peut-être une mesure différente, mais c'est toujours le cas en France. Ça a été la règle, hein, et ça m'a joué des tours en politique aussi, à un moment donné. C'est que, oui, le côté femme célibataire, ça interpelle, ça interroge, et très souvent, on s'est permis de venir me voir pour me demander combien j'avais d'enfants, etc., si j'étais mariée ou pas. Mm. Comme si c'était quelque chose de normal, alors qu'il m'appartient d'avoir une vie amoureuse ou non, il m'appartient de la partager ou non, d'avoir envie ou non d'enfants, mais je n'accepte aucune injonction d'où qu'elle vienne. Mm. J'ai suffisamment de caractère pour remettre les gens à leur place quand ils vont trop loin. Maintenant, j'ai 37 ans aujourd'hui, je suis célibataire et sans enfant, et c'est un choix. Mm. Demain, si j'en ai envie, je le ferai, mais je m'épanouis aussi autrement que par le biais d'un mariage ou d'une vie de famille, comme on pourrait, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets, classiquement l'attendre d'une femme comme moi. Mm. Mais ça n'empêche ni l'épanouissement, ni la réussite, ni plein d'ambitions par ailleurs. Et ce n'est pas non plus incompatible avec tout ça. Moi, c'est un choix que je fais et que j'assume. Maintenant, oui, je suis encore confrontée à des réactions réactionnaires, précisément, par rapport à ça, parce que je ne suis pas tout à fait là où on m'attend, là où je devrais être.
C'est
justement.
Ça.
C'est vrai en France aussi, et c'est vrai dans le milieu de la politique, tout à fait.
D'accord. Alors, tu sais, j'en parlais aussi dernièrement avec... une proche, et je voulais l'interviewer dans Femmes d'aujourd'hui, parce qu'elle aussi a choisi de vivre seule. Et elle m'a dit, écoute, je n'ai rien à dire parce que c'est simplement la suite logique de ma vie. Je ne suis là ni pour justifier, ni pour expliquer, ni pour dédramatiser, mais c'est ma vie tout simplement. Et il faut que la société... Voilà. Donc,
c'est ça
en fait, c'est que c'est la suite logique du parcours d'une personne tout simplement, et on n'est pas encore arrivé à ce détachement de l'image de la famille. D'ailleurs, on m'a souvent fait le reproche en me disant attention de ne pas véhiculer dans Femmes d'aujourd'hui que la femme d'aujourd'hui, il faut qu'elle soit mariée avec des enfants, etc. Non, pas du tout. Je ne veux pas véhiculer cette image-là. La femme d'aujourd'hui a le droit d'être ce qu'elle veut être.
Y compris d'être une femme mariée avec des enfants.
Y compris, absolument.
J'ai beaucoup de respect pour toutes ces femmes qui mènent une vie incroyable, qui décident d'élever leurs enfants. Enfin, moi, comme je le dis dans mon livre d'ailleurs, mon premier modèle de féministe, c'est ma mère. Alors moi, j'ai pas fait le quart de ce qu'elle a fait. C'est quand même elle qui m'a transmis ses valeurs, qui me permettent aussi d'être là aujourd'hui. Mes choix personnels, mon libre arbitre, tout ce qu'on veut, toutes les contacts et rencontres que j'ai fait dans ma vie, les livres que j'ai lus, les auteurs qui m'ont accompagnée dans ma vie. Mon premier modèle de féminisme, c'est ma mère. Et c'est une femme qui n'a jamais mis les pieds à l'école, c'est une femme qui n'a jamais appris à lire et à écrire. Plus tard, elle a commencé à le faire seule, mais elle n'a pas suivi de scolarité. Et c'est une femme qui a élevé 8 enfants, et je vous assure, le parcours de ses enfants sont remarquables. Je ne le dis pas parce que c'est moi, mais je le dis pour mes frères et sœurs. On a des chemins de vie... incroyable, alors que sociologiquement, on n'aurait pas dû, entre guillemets.
Oui,
on ne fait pas partie des 90% des habitants de classe ouvrière qui reproduisent le schéma de leurs parents. Mmh. L'éducation de nos parents nous a permis d'aller plus loin. Quand j'ai l'éducation, ça va plus loin. Évidemment, on a des parcours de vie singuliers, etc., des bonnes rencontres au bon moment. C'est très important, le réseau. Mais tout ça fait que les modèles de réussite ne sont pas forcément ceux auxquels on pense. Et moi, je le dis, je le cite beaucoup dans mes interventions, notamment dans les milieux scolaires. Quand je dis que mon premier modèle de féminisme, c'est ma mère, les gens me regardent en me disant « Mais pourquoi au juste ?» Mais parce qu'elle a un parcours incroyable aussi. Mmh. Et que c'est aussi ça, la force que nos parents ont réussi à nous transmettre, qui n'est pas forcément évidente comme ça, parce que ce sont des gens discrets et qui s'expriment peu, mais qui ont réellement fait des choses incroyables. Et c'est aussi ça que j'ai envie de mettre en évidence. Et si moi, aujourd'hui, je suis auteur, dirigeante, femme politique, etc., c'est aussi parce que j'ai trouvé de l'inspiration dans le modèle de réussite des miens. Mmh.
Alors, justement.
Une femme qui n'a jamais mis les pieds à l'école.
À l'école. Là, t'es fâchée. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Oui. Quels sont tes projets d'avenir?
Alors, moi, j'espère venir au Maroc rapidement pour parler de mon expérience. J'y tiens et je te ferai un petit message quand ce sera le cas. C'est
avec
prévu,
plaisir.
Mais quand ce sera le cas, je te tiendrai au courant. Mais écoute, moi, c'est de continuer à inscrire mon action dans la transmission, et j'espère que le public marocain qui me tient à cœur pourra aussi être au rendez-vous à ce moment-là.
Ton papa est fier de toi aujourd'hui?
Beaucoup, énormément, oui.
Ouais.
énormément. C'est d'ailleurs lui qu'on voit dans la couverture. Cet hommage-là.
Tu lui as bien démontré que tu pouvais être Mara.
Ah, je pense qu'il n'en a jamais douté.
Ouais, super.
Il en était sûr avant moi.
C'est ça qui est bien. Et ta maman, elle en a conscience de ta réussite ?
Oui, on a eu la chance. On avait, à l'époque, on pouvait encore s'exprimer, une relation très fusionnelle. Et oui, on a toujours partagé énormément de choses ensemble. Mm. On continue sous forme différente. Aujourd'hui, ça passe énormément par le regard et le contact physique, mais je pense qu'elle est tout à fait au courant de ce qui se passe.
Super.
Et qu'elle est très heureuse que sa fille fasse ce qu'elle fait. Mm. Et qu'elle y ait contribué, je pense aussi. On a parfaitement conscience.
Latefa Chey, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci à toi Yasmine.
C'était un plaisir.
Et pour toutes ces femmes que tu mets en valeur. Merci infiniment.
Merci à toi pour ta confiance et toutes ces femmes pour leur confiance justement et d'accepter de venir s'exprimer comme ça, honnêtement, sans langue de bois, en toute transparence. La femme marocaine d'aujourd'hui, la vraie. Voilà, avec sa singularité et ses pluralités. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.